Bonjour à toutes et à tous, les chroniques financières sur CFM Rodez, c'est toutes les semaines à cette heure-ci, et aujourd'hui c'est la dernière émission de l'année.
Je me rassure, j'espère Steve.
Ah ben rassure-toi.
Merci. Non, on sait jamais, tu sais, parce que tu sais, les finances, parfois il y a plein de surprises, des choses qui se passent, on s'attend pas.
Mais c'est ça qui rend le métier intéressant, David, il y a toujours des surprises.
C'est vrai. Et même parfois des bonnes.
Mais absolument.
Steve, c'est Steve Bonneau, évidemment, à l'initiative de cette émission, conseiller en investissement à ICA Finance dans le centre-ville de Rodez.
Toujours.
Avenue Victor Hugo. Et là, je fais un peu plus long que d'habitude parce que l'autre jour, je suis en montant la rue Planard, là. Je passe pas souvent par là, mais donc je suis tombé en face de petits bureaux que j'ai vu pour la première fois comme ça en montant. C'est joli, il y a une grande baie vitrée.
Eh oui, c'est super.
Vous êtes bien installé.
Très très bien installé.
Vous avez une belle vue.
Exactement. Bon. Dégagé, une très belle avenue.
C'est bien. Au programme de cette dernière émission de l'année, Steve, on va commencer par de l'anglais. Hein.
C'est un titre anglais. Un petit peu, mais il en faut. C'est la finance.
C'est la langue de la finance. Hein. L'économique storytelling.
Oui.
Steve, alors quand moi je vois ça comme ça, quand tu m'as dit ça, storytelling, ça me fait penser à des séries télévisées, du cinéma, des émissions de télé, c'est pas bien clair cette affaire.
Mais c'est un peu ça, ouais, en réalité. Et ce qui est intéressant, alors, juste pour la petite histoire, donc, je lisais ce matin un rapport d'un économiste que j'aime beaucoup, américain, qui s'appelle Robert Shiller.
Oui, on le salue.
Voilà.
Si ça se trouve, il nous écoute.
Peut-être. Potentiellement.
Bah oui, ok.
Et donc... il a fait toute une étude sur justement le rôle.
Ouais.
Alors, on va essayer de traduire ça par le narratif, si tu veux,
oui.
Qui se construit autour des phénomènes économiques. Ça peut être des bulles,
ouais.
Ça peut être des dépressions, ça peut être tout ce qui touche en fait à l'économie.
Mmh.
Et ce qui l'intéressait, c'était de voir comment une histoire simple se propageait donc dans la population. Que ce soit au niveau des investisseurs ou des agents économiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, et comment tout ça débouchait en fait sur des conséquences économiques.
Alors, est-ce que tu as un exemple déjà autour de... Alors, là, tu parlais de bulles ou de...
Oui, il parlait de la crise de 29,
la grande dépression. J'ai appris ça au lycée.
Donc voilà, et il mettait en fait en lumière tout un contexte, alors c'est évidemment beaucoup psychologique, mais qui a participé en fait à la réaction brutale de ce qui s'est passé in fine sur les marchés, qui, faut-il le rappeler, est aussi la conséquence de mesures de politique monétaire qui ont été prises alors, et notamment, en fait, tu te rappelles, à l'époque, il y avait beaucoup de bank run,
c'est-à-dire
que voilà, les gens se précipitaient en fait sur les établissements bancaires pour retirer leur liquidité dans... La peur, en fait, que la banque fasse faillite.
Qu'il n'y en ait plus,
Et dans ce contexte-là, il y a eu... Parce que c'était aussi un contexte apparemment assez inflationniste à l'époque.
Ouais.
Et donc, il y avait eu beaucoup de hausses des taux.
Crise de 29, tout le monde en a entendu parler. Bon, on a appris ça au lycée, plus ou moins. Bref.
Ouais.
Moi, ce que je me souviens, c'est que la crise de 29, comme on me l'a expliqué, on m'a dit que les marchés financiers, enfin, à New York notamment à l'époque, ils avaient beaucoup augmenté.
Ouais.
Sur une courte période, sur quelques années.
Mais c'était les fameux Roaring Twenties, les années 20 rugissantes.
Parce qu'après la Première Guerre mondiale, Américains, ils ont bien profité parce qu'ils ont aidé nos pays. Ils ont prêté de l'argent, il y a eu de l'argent qui est venu aux États-Unis, des immigrants aussi qui ont intégré le pays, qui ont fait grossir l'économie. Donc tout le monde, ça tourne, le business, il a tourné. Et sauf qu'à un moment donné, comme on dit, je sais pas, ça a été quoi le déclencheur, je me rappelle.
Mais il y a eu une confluence en fait de différents facteurs.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant dans l'étude. Il explique en fait que c'est pas seulement ou nécessairement une mesure de politique monétaire, par exemple la hausse des taux, qui a déclenché tout ce vent de panique, mais c'était un contexte historique. Donc on était au sorti de la Première Guerre mondiale.
Voilà.
On commençait à parler beaucoup de la peur du communisme.
Ah oui.
Parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup en fait de faits qui ont été publiés dans la presse. Donc il parlait aussi du rôle important de la presse, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Pour propager l'information.
Exactement.
Alors
non seulement pour propager l'information, mais justement pour lui donner corps.
Lui donner un sens, une direction.
Faire en sorte que l'histoire puisse être appropriée rapidement donc, par les lecteurs, parce que c'est quand même un métier compétitif, donc ouais, il fallait avoir cette accroche.
Bah, fallait que tu achètes le journal.
Exactement.
Et le tien et pas celui d'un autre.
Exactement. Et donc il y avait ce côté un peu sensationnel. Ouais. Et pour ça, et ben d'après ce que j'ai de ce qu'il dit dans son étude, c'est que ils avaient expliqué que voilà, il y avait donc cette crainte communiste qui se matérialisait. Mmh. Et pour l'illustrer, ils avaient donné en fait des informations sur le massacre du tsar Nicolas II par les bolcheviks en 18. Donc des informations très crues. Donc,
ouais. Pour faire, bon, enfin, en même temps, c'était vrai, ils l'ont vraiment, enfin, quoi, oui, mais si, ils l'ont vraiment tué. Ping, quoi, voilà.
Ouais, exactement. Et donc, il disait, ben, ça participait à créer une sorte de climat psychologique un petit peu particulier.
Ouais.
Rajouté à ça, donc, il y avait l'épidémie de grippe espagnole.
Pareil, à la fin de la Première Guerre mondiale, tout à fait, qui avait tué plein de gens.
Il y avait.
Les jeunes, en plus, à l'époque.
Exactement. Une problématique d'inflation aussi. Ouais. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui, mis bout à bout, en fait, ont contribué à déclencher à un moment donné ce crack, tout simplement.
Ouais, ouais.
Parce que là, c'était vraiment un crack, puisqu'en deux jours, on a perdu, je ne sais plus quoi, c'était 20 ou 30%.
C'était un truc comme ça. Sur quelques jours, un tiers, plus d'un quart de la valeur de tout avait disparu.
Oui, exactement.
Et les gens, on se souvient, moi, il y avait quelques images, à l'époque, il y avait du cinéma, et on a quelques images, moi, je me rappelle avoir vu ça plus jeune, oui, des gens qui... Alors, soit se jeter par la fenêtre, suicidaient, d'autres qui allaient à leur banque, ils avaient une queue de 2000 c'est personnes ça, ouais. devant la banque pour prendre ses sous. Oui, je me souviens d'avoir vu ces images-là.
Et puis, donc, à tel point, d'ailleurs, pour illustrer ça, que quand Roosevelt est rentré en fonction en 1933, il a dit, voilà, il faut vraiment vaincre cette peur qui n'a pas lieu d'être, quoi. Il ne faut pas...
Il n'y avait pas de raison qu'il y ait une crise de 1929. Enfin, pour toi, pour M. Schiller.
Alors, structurellement...
Parce que les crises, ça fait partie du cycle de la vie de quoi que ce soit.
Oui, tout à fait. Mais alors, structurellement, si, parce qu'il y a eu, en fait, des mauvaises coordinations des politiques monétaires.
Ah oui, je me souviens de ça.
Voilà. Mmh. Là, ça a vraiment contribué à des défauts en chaîne. Mmh. C'est ça, hein, les banques.
Oui, parce que, effectivement, ça m'en revient. À l'époque, contrairement à ce qu'on a fait là, en 2007-2008, où toutes les banques, enfin, les grandes banques centrales ont distribué de l'argent, entre guillemets, ont rendu l'argent gratuit, donc... les banques n'avaient pas d'argent, elles pouvaient en trouver gratos auprès des banques centrales.
Exactement.
Pour rembourser leurs emprunts. Là, en 29, on a fait l'inverse.
Exactement.
C'est-à-dire que ils n'ont pas mis de l'argent.
Ils n'ont pas mis de l'argent et donc ça a précipité un certain nombre de faillites bancaires.
Ils ne sont vraiment nulle part.
Ouais. Absolument.
Okay. Ouais.
Et je pense que ça a été vraiment un élément déclencheur majeur. Quoi. Ouais. Tu vois, ce manque de coordination entre tous les opérateurs du système.
Mmh, ouais, depuis, d'ailleurs, c'est ce qui a servi un peu de leçon, entre guillemets, ou de contre-modèle à ce qui s'est passé en 2007-2008. Hein. Ils ont pas fait la même erreur.
Et ça, c'est un point intéressant aussi, que met en avant donc, Robert Schiller dans son article. Il explique que toutes ces histoires, en fait, qui nous restent gravées quelque part, c'est un petit peu comme une sorte d'épidémie qui décroît très, très lentement. On y fait référence encore.
Ouais, bien sûr.
Et l'idée sous-jacente, c'est de dire... quelque part, on prête parfois plus facilement attention à des histoires économiques qu'aux faits.
Qu'à la réalité.
À la réalité.
Ouais, mais alors après, t'as sans doute raison. Mais après, y a quand même une réalité qui existe
absolument.
Quelque part et qui s'impose aussi quand même parfois.
Et qui s'impose parfois comme en 2008, hein, par exemple.
Ouais.
Donc on en discutait. Là, si tu veux, donc il y a eu un engouement absolument incroyable donc, pour l'immobilier.
Aux États-Unis,
hein, bien sûr. Donc, il y a eu des. Encore une fois, c'est une histoire de crédit.
Ouais, ouais.
Donc, qui a vraiment.
On prêtait plein de sous à des gens qui n'avaient rien du tout.
Mais tous les acteurs, en fait, se sont retrouvés, donc, emportés, enivrés quelque part par ce momentum sur la bulle, si tu veux. Même les agences de notation, qui sont censées attribuer des notes à chaque emprunt, des notes de qualité, des qualités de crédit. Et là, disaient, mais. Voilà, je citais tout à l'heure le film de Big Short et c'est très bien expliqué dans le film. Il disait, si nous, on ne note pas comme il faut tel emprunt, on perd nos clients.
Ouais, comme il faut, c'est-à-dire comme il faut pour plaire aux clients.
Exactement, pour les vendre.
Parce que effectivement, à l'époque, en 2008, là, on avait reproché, une fois que la crise a été enclenchée, aux agences de notation dont c'est le boulot, de ne pas avoir dit que ces prêts, c'était des emprunts de merde.
Exactement. Exactement. Et donc, tout ça pour dire, en fait, que les gens passaient un moment quand le momentum ou la viralité, si tu veux, de l'histoire économique derrière, parce que c'est ça, se dire, on va acheter une maison, on va la revendre dans 3 mois. Donc là, il n'y a pas des fêtes. C'est vraiment une histoire qui t'intéresse, quoi. C'est de se dire, les gens, quelque part, prennent beaucoup plus leurs décisions basées sur comment ils perçoivent ces histoires-là plutôt que de s'intéresser aux faits et uniquement aux faits. Et dans ce film, ce qui est très très bien montré, c'est qu'il y a quelques intervenants qui se sont intéressés aux faits et qui ont détecté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que essentiellement ils sont allés sur le terrain. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont vu sur le terrain? Ben, ils ont vu la réalité crue. C'est-à-dire que, par exemple, à cette époque, il y avait des lotissements de maisons neuves qui étaient complètement déserts. Désert. Et ils se sont dit, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Alors que oui, l'ensemble de la population... Mais tu mets un peu en cause les... Ça va encore être de ma faute. Bah, c'est la faute aux médias.
Ben, j'ai pas envie de le dire,
si,
mais franchement, oui.
Non, attends. Alors, après, là où je peux te suivre, c'est que, bon, les journalistes ne sont pas plus intelligents que les autres. Ça, on est d'accord. Bon, mais deux, les journalistes, leur métier, c'est d'être lu, écouté ou vu. Donc il y a des gens qui les croient plus ou moins ou qui leur font plus ou moins confiance, plutôt moins que plus d'ailleurs ces derniers temps. Mais moi, par expérience, même si je connais pas tous les journalistes du monde entier, il y a des vrais escrocs et des vrais menteurs, des gens malhonnêtes dans tous les métiers, donc dans celui de journaliste, des gens qui racontent des fausses histoires pour faire vendre leur
mais
journal.
Mais tu vois, je me permets juste de te couper là, des gens qui racontent des fausses histoires, c'est que précisément, le fait de raconter d'histoires, c'est ce qui va interpeller les gens, plutôt que,
que
le fait lui-même.
D'accord.
C'est ça qui est très différent, par exemple, de tous les modèles économiques, on va dire académique, qu'on nous a appris quand on était à l'université.
Ouais.
Tu vois, c'est ce fait que comment est-ce que tu fais pour modéliser quelque part la propagation d'une histoire qui deviendrait virale. Parce que ça a des conséquences économiques derrière.
Ouais. Mais alors après, nous, bon, je reviens là-dessus. Nous, effectivement, on raconte une histoire, mais par rapport aux éléments qu'on a. Et le plus souvent, c'est pas malhonnête. On croit bien faire et on croit reporter les informations qu'on reçoit. Quand on est journaliste, t'as les grandes agences de presse internationales qui te donnent l'info entre guillemets brute, même s'il y a aussi un fil. Donc l'AFP, Reuters, tu te sers de ça. Tu te sers de quoi? Tu te sers. Voilà quoi, tu pars pas dans l'idée de... sur le titre, tu vas faire un truc un peu vendeur, un peu accrocheur, un peu peut-être provocateur, mais sinon...
Mais après, si tu veux, on a vu aussi dans l'histoire récente que sur cette information brute, t'as certains journalistes qui vont mettre en avant plutôt tel ou tel aspect de l'information et d'autres plutôt tel ou tel autre.
Voilà.
Et du coup, en fait,
une information dans un pays théoriquement, on va pas prendre la France, mais on va prendre les États-Unis et l'Angleterre, où la presse est quand même pas mal, mieux qu'ici. Tout n'est pas représenté, toutes les opinions ne sont pas représentées, mais enfin, il y a quand même des opinions différentes.
Oui, il y a des opinions différentes, mais qui ont leurs propres aficionados.
Ouais,
dans ces groupes-là, les gens vont se dire, je regarde une nouvelle qui tombe sur CNN, ça me suffit. Le fait que ça vienne de quelque chose qui est perçu comme étant crédible, ça suffit pour valider l'histoire. Et quand tu valides l'histoire, tu agis derrière dessus.
D'accord.
Et ça, on retrouve ces phénomènes sur les marchés. C'est les bulles. Les bulles ou les cracks.
Mais alors à ce moment-là,
il y a un mimétisme important et ce mimétisme, il est lié en fait à ta perception de l'histoire sous-jacente. Pas tant au fait, parce que t'es en mode panique après.
Après c'est le phénomène de foule.
C'est exactement ça.
C'est tout phénomène de foule, tout le monde suit dans la même direction pour se prendre le mur et tout le monde meurt écrasé.
C'est ça.
Ok. Mais il faut bien que c'est...
À part évidemment les clients du ICA.
Évidemment. Mais c'est... ces histoires où... oui, toi tu vas pas forcément le mal. C'est pas un complot général.
Non, c'est pas un complot général, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit.
Tenir compte.
Voilà.
Ouais.
Alors, comment on gère ça, par exemple? Tu vois, je parlais d'ICA, mais là, je fais un. Comment on gère ces choses? Souvent, en utilisant des produits qui sont adaptés au temps plus long. Tu vois, en disant, par exemple, plutôt que de prendre une décision à chaud, je vais prendre une décision, mais la nature du produit fait que ça va prendre un peu de temps.
Ouais, donc ça lisse les...
L'aspect
émotionnel.
Exactement.
D'accord.
Ouais. Exactement. Et ça, c'est très important parce que, en fait, ça te renvoie à une des clés, à mon avis, du succès dans les investissements, c'est la discipline.
Ah oui.
Il te faut avoir une discipline de faire.
Ah, mais ça, c'est dur.
C'est très dur.
Parce que l'être humain, je sais plus quel philosophe disait machin est un être rationnel, mon œil quoi, je veux dire.
Non, on n'est pas des vulcains.
Non, l'être humain, il est rationnel peut-être 30 secondes par jour, mais le reste du temps, il est émotionnel, passionnel, hormonal, tout ce que tu veux. Il a faim.
Mais c'est exactement ça. Et du coup, pour nous, Ben, ça m'a fait réfléchir en disant, ok, très bien, comment est-ce qu'on peut utiliser, donc c'est quelque part ces facultés de l'humain, pour essayer d'obtenir le plus d'informations qualitatives qui nous aident, nous, dans notre travail, par exemple, ne serait-ce que pour évaluer l'appétence au risque d'une personne.
Ouais, pour comprendre qui on a en face de soi et qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Exactement. C'est beaucoup plus intéressant d'essayer, en fait, d'échanger une sorte d'histoire ou un narratif, en fait, même si c'est économique, mais pas que, qui va nous renseigner sur l'appétence au risque, le style de vie, ce qui compte, en fait, quelles sont les valeurs, en fait, qui comptent pour cette personne-là, de sorte que nous, on puisse ensuite faire une sorte de mapping entre ces informations-là et des profils d'investisseurs.
Mais alors, Steve, moi, je te suis à 100% là-dessus. Ou 99, on va dire. Bon. Ah. Mais du coup, Steve, toi, t'as fait quoi comme étude ?
Finance.
Bon, c'est des chiffres.
Finance, et... Ah, mais pas que finance. Finance, c'est économie-défense. Bon. Juridique.
Ah, il y avait un peu, géopolitique. Donc, il y avait un peu, ah, très bien, ça devait être intéressant aussi, ça. Bon, bref, enfin, c'est des chiffres et des lettres. Mais alors, il va falloir que tu repasses un diplôme de psychologue et de psychologue et de psychanalyste.
Oui, mais là, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Bah ouais, non, mais parce que si c'est les facteurs, finalement, qui sont peut-être pas les plus importants, mais si, quand même, les plus efficients, dans votre métier, il y en a beaucoup des psychanalystes.
Ah, mais c'est une alchimie, notre métier. On ne peut pas se baser uniquement, en fait, sur des équations. Parce que ça ne marche pas, tout simplement.
Oui.
Ça ne marche pas. Il y a...
En économie, hein. Sinon 2 plus 2 est bien égal à 4.
Oui, on est d'accord là-dessus. Ouais. Mais, par exemple, on peut difficilement s'en servir pour prédire. C'est comme ça. Et dans cet environnement, donc, qui est un environnement incertain, comment est-ce qu'on travaille, en fait, dans l'intérêt du client ? C'est véritablement d'essayer de se mettre dans les souliers du client pour comprendre, en fait, ce qui est important pour lui, comment il réagit à des situations d'incertitude, et de mettre en place, en face, une structure de portefeuille qui corresponde à cet état psychologique.
D'accord.
C'est très dur.
Parce que ça, on en est très très loin dans votre travail, toi, ICA, ou dans ton expérience passée.
Alors, je pense qu'on en est... Il y a eu des progrès, parce que maintenant, on utilise et on doit utiliser des questionnaires.
Oui, on en a parlé plusieurs fois. Exactement. C'est un peu d'évaluation du profil, la situation. Hein.
Mais quand j'ai lu, en fait, l'étude de Robert Schiller, je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'agrémenter des questionnaires qui sont un petit peu sec, on va dire, c'est pas très intéressant, soyons honnêtes, c'est des questions, c'est des chiffres, ça parle pas, ça parle pas. Comment on pourrait utiliser, en fait, donc tout cette théorie, en fait, qui tourne autour du narratif pour essayer d'extraire, en fait, les informations dont on a besoin et de rendre l'expérience client beaucoup, beaucoup plus intéressante pour le client.
Oui.
Parce que remplir un questionnaire, en fait, où on te demande des questions, est-ce que vous connaissez les actions, les obligations, ça fait un peu contrôle.
Ouais, d'accord, je
vous traite. Alors que c'est pas l'intérêt, en fait.
Bon, il y en a un, mais c'est pas suffisant.
Voilà. Il faut qu'on amène la discussion, si tu veux, sur ces aspects-là, sans que quelque part le client s'en rende compte.
Et ouais, parce que j'allais te dire, tout ça, même si c'est plein de bonnes intentions de ton côté, on n'en doute pas, certains peuvent se dire, bah ouais, mais attends, le mec, en fait, il est en train de nous expliquer quoi, là, qu'il cherche à me prendre par revers et pour me manipuler, finalement.
C'est ça le storytelling,
En politique, on en parle beaucoup.
Mais bien sûr. Trump était excellent.
Oh, puis ils sont un peu forts, puisqu'ils sont au pouvoir plus ou moins avec, ils s'en servent.
Mais c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Et il faut faire attention, donc il faut. Si tu veux, là aussi, il y a une éthique professionnelle qui doit être importante. Tu vois, ce sont des règles, en fait, de déontologie auxquelles on ne peut pas déroger. Mais expliquer, en fait, que dans la relation, la discussion qu'on a avec un client, ça ne tourne pas nécessairement toujours autour de produits financiers, mais beaucoup plus autour de son style de vie, etc., qui va nous permettre, en fait, de comprendre comment il réagit, ce que je disais tout à l'heure, comment il réagit à des situations d'incertitude. Et ces informations-là, comment nous, elles vont nous servir à mettre en place un style de portefeuille qui correspond à ses valeurs.
Ouais, un programme qui lui... Donc, en gros, c'est le retour de l'humain.
C'est le retour de l'humain, oui. C'est pour ça, en fait, si tu veux, c'est un truc que je disais aussi il n'y a pas longtemps, qui disait vraiment... Les commerciaux haut de gamme vont être les grands gagnants de la révolution intelligence artificielle. Parce qu'on va garder ce côté, en fait, très, très humain pour vraiment donner des produits et une expérience qui vont être uniques pour le client. On peut pas c'est pas quelque chose qu'on peut industrialiser.
Ouais, on peut pas trop le répliquer et exactement ouais, comme dans une usine, exactement tout à chaque fois le même modèle. Le monsieur Schiller, là, rappelez-moi Robert.
Robert.
Ouais. Ça se termine comment son histoire? Il a des solutions, il est optimiste, il est positif. Alors, ou non, il prend pas juste, il émet des choses et puis voilà.
Non, il est positif. Donc il s'est servi en fait d'un modèle de base qui a été développé il y a quelques années donc en science de virologie. Regardez comment
se propagent
les virus.
Eh oui, parce que tout est pareil. Oui, bien sûr, d'accord, ok.
Et c'est vraiment intéressant. Et alors, ce qu'il a fait d'intéressant, c'est qu'il a regardé, par exemple, en adaptant ce modèle-là à la propagation d'histoires
ou d'une information, réelle ou supposée.
Il a regardé en fait ce que donneraient les résultats théoriques du modèle et il a comparé avec la fonction Google Trend. Tu vois, il a regardé. Et ce qui est intéressant, c'est que tu retrouves.
Ça colle.
Alors, ça colle dans les grandes lignes. On retrouve le même phénomène. C'est beaucoup plus cassant sur Google Trends parce qu'il y a du bruit. Donc, c'est pas.
Oui.
Si tu veux, c'est des choses que le modèle ne va pas matérialiser ou capturer facilement. Mm-hmm. Mais tu retrouves dans les grandes formes, si tu veux, ces phénomènes, en fait, de viralité très rapide ou moins rapide. Avec ensuite des courbes de décroissance.
Et ces courbes, c'est tout, c'est genre Gauss, c'est des trucs traditionnels, c'est toujours le même type de courbe.
C'est pas tout à fait gaussien. Ouais. C'est il y a quand même du biais parce que t'as souvent des phases d'accélération très fortes au départ.
Ouais.
Avec des paliers même. Et ensuite, si tu veux, ça décroît beaucoup plus lentement.
Alors, ça veut dire son truc si ça marche à 100% et qu'on a tout bien compris, qu'on sait s'en servir, qu'on prévoit l'avenir.
Non, parce qu'il dit une chose qui est très simple, c'est qu'on ne malgré tout. On ne peut jamais vraiment deviner les éléments qui vont faire que telle histoire va être un hit et telle autre va être un flop.
Ah, ça, c'est comme en musique. On ne sait jamais qu'est-ce que le tube. Tu crois que ça va être un tube, c'en est pas un. Tu crois que ça va pas en être un, c'en est un.
Mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que tu touches aux limites en fait, de la statistique et des mathématiques ici. Dès que tu touches à la partie humaine, c'est très compliqué. Il y a pas, tu peux pas modéliser au-delà d'un certain. Tu vas pouvoir modéliser dans l'agrégat, on va dire, ça va faire
sur des sortes de trucs comme ça. Ouais.
Mais pour telle histoire, il y en a qui vont faire des flops.
Ah ouais.
Pourquoi? Et c'est difficile à expliquer.
Pour l'instant, à ma connaissance, personne ne sait.
C'est comme les films. Pourquoi il y en a qui font des flops et il y en a qui sont bien mieux, alors qu'au départ, on dirait
c'est pareil.
C'est exactement pareil.
Un film avec Christian Clavier. Il y en a qui ont fait des succès et depuis, il y en a plus aucun.
C'est ça.
Ok. Bon, comment il s'appelle c'est un livre que t'as lu ou c'est un rapport?
C'est un rapport, ça s'appelle Narrative Economics.
Narrative Economics. Et c'est monsieur
Robert Schiller.
Robert Schiller. Merci beaucoup, Steve.
Merci, David.
Pour cette nouvelle thématique très intéressante. Aujourd'hui, dans les chroniques financières sur CFM Rhodes, l'economic storytelling. Donc, très intéressant et à approfondir, évidemment. Peut-être pas pendant les fêtes.
On fait toujours travailler.
Moi aussi, mais c'est un peu chiant. C'est bien, mais c'est chiant.
Ouais, je sais.
Bon, passe de bonnes fêtes quand même.
Merci, David, toi aussi.
Allez, ciao.